La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à toutes et à tous, pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour aller au bout du monde. Savez-vous, par exemple, que le Québec existe aussi en Bourgogne, et plus particulièrement dans le Morvan, à 5 heures de train de Bruxelles midi, c'est le Grand Nord avec son été indien et en prime, châteaux et basiliques, comme celle de Vézelay, bien connue des pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors nous n'irons pas si loin, c'est à la longère des Grands-Ducs que je vais vous présenter Dominique Hannet, une entrepreneuse namuroise venue planter ses chalets dans le parc régional du Morvan. Une destination plutôt confidentielle, mais pour vivre heureux, hein, vous connaissez le dicton, vivons cachés. Bonjour Anne Poilard.
Bonjour.
Vous êtes déjà allée dans le Morvan ?
Jamais, pas encore.
Eh bien moi, c'était la première fois aussi, et on y fait de belles rencontres.
Oui, tout à fait, parce que j'ai rencontré à distance un couple de Belges qui s'est installé dans le Morvan et qui y trouve l'inspiration.
Dans une petite demi-heure, ils seront sur antenne, mais avant cela, cap sur le Morvan, avec une chanson de Laurent Voulzy qui fait rimer Avalon et Polisson.
Les Belges du bout du monde. Jusqu'à 10h sur la première. Adrien Jovenot.
Et ce grand vide là dans mon cœur. Et ce désir infini d'âme sœur.
Ah, l'île d'Avalon, ou la ville d'Avalon en français, dans la légende du roi Arthur, c'est là qu'a été forgée l'épée Excalibur. C'est dans cette contrée mythique et sauvage que je rencontre notre Belge du bout du monde, Dominique Hannet.
Bonjour Adrien, bienvenue dans le parc naturel régional du Morvan, cœur de la Bourgogne.
On est à cheval ou presque sur 4 départements.
Oui, le Morvan est sur les 4 départements de la Bourgogne, l'Yonne, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et le Nivernais. Le Morvan s'appelle le Petit Canada de la Bourgogne et il n'est pas très connu en fait, ni des Belges ni d'ailleurs des Français. C'est souvent un hasard, parfois par une émission radio ou télévisée que les gens le découvrent, mais c'est vrai que ce n'est pas un parc naturel régional qui est connu comme les Vosges, qui est beaucoup plus connu. Donc ça veut dire que c'est un lieu encore un peu sauvage, donc nature. Les gens qui cherchent des endroits où il n'y a pas trop de monde, ben c'est la bonne adresse. Mais ne le dites pas à tout le monde.
Alors, dans cette émission, on va faire plein de choses différentes.
Le but, c'est de vous faire découvrir le Morvan. Alors, le Morvan du côté de la montagne, du sommet de Bibrac, du Mont Beuvray, on va faire une promenade avec les oiseaux. Le Morvan des plaines, on ira du côté de Vézelay et du château de Bazoches. Alors, c'est du château de Bazoches, le château de Vauban, en fait, hein, celui qui dessinait les cartes de ces fameuses citadelles, et la citadelle de Namur, notamment. Et puis, nous irons, et nous sommes aujourd'hui sur le Morvan des lacs, de la région des Grands Lacs du Morvan. Il y en a 6. Et moi, j'habite au bord du lac des Sétons, qui est un des 6 lacs de la région des Grands Lacs du Morvan.
Qu'est-ce qui t'a amené ici ?
Ah, ça, c'est l'amour, ça. C'est une histoire d'amour. Mon mari est conférencier, mais il habitait en Provence. Et entre la Provence et la Belgique, il y a juste un endroit, une intersection qui s'appelle le Morvan, à 500 km de chaque côté.
Donc ici, à mi-route, en terrain neutre, entre
c'est
les deux.
C'est terrain neutre. C'est un peu la synthèse de ce qu'on trouvait de bien dans le sud et dans le nord, en fait.
Ok, et alors il a créé avec toi un bistrot qui a un nom assez sympa.
Oui, on a créé le premier bistrot des optimistes, affilié à la Ligue internationale des optimistes. Les gens qui veulent voir les choses positivement, le verre vin, le lapsus bourguignon absolu, le verre moitié plein et pas moitié vide.
Et à propos d'image toute faite, là je suis surpris parce que moi je dis tiens, on va arriver en Bourgogne, on va voir des vignes et tout ça, mais non, pas dans ce coin-ci en tout cas.
Ah non, pas de vignes dans le Morvan, mais beaucoup de vin, pas de problème. Il est importé des 4 vins de la région de Bourgogne, mais c'est vrai que c'est pas une région de vignes, c'est une région de forêts, d'étangs, de prairies, mais c'est une région qui a encore les 4 saisons bien marquées. Donc, le Morvan est beau toute l'année pour ces raisons-là. Là, maintenant, à l'automne, on va avoir toutes les couleurs. En été, on va avoir les lacs et puis là, je vais dire, tous les jeux d'eau. En hiver, la neige, les lacs, comme dans le Canada, les lacs gelés qui font des bruits de baleines quand la glace craque. Et le printemps où tout se réveille. Alors, les couleurs changent toutes les demi-heures pour le moment, comme tu vois. Donc, on est au bord d'un petit lac avec les nénuphars, les roseaux. Alors, si on regarde bien, on a pas mal de carpes, de truites, de brochets aussi qui se glissent entre les roseaux. Et puis tu as tous les arbres autour, les saulpleurs qui se reflètent en fait dans l'eau avec les nuages aussi que l'on voit en miroir.
Alors devant nous, un oppidum ?
Alors un oppidum romain. Un oppidum, c'est une petite colline où on pense, non, on sait qu'il y a eu un petit camp de Romains. Il y a Vauban et ses citadelles, mais il y a aussi toute l'histoire des Gaulois de Vercingétorix, des Romains qui ont habité. C'était la Gaule ici.
On ira d'ailleurs sur leur trace tout à l'heure.
Nous irons sur la trace, oui, d'un grand village gaulois. 10 000 habitants quand même, pour l'époque, c'était pas rien. Et l'histoire de César qui a terminer l'écriture de la guerre des Gaules ici, en fait. Voilà. Et qui a créé une ville qui s'appelle Autun, qui est étudiée. Même à Namur, on étudie le tympan de la cathédrale d'Autun. Autun, c'est Auguste. Auguste Dunum, c'était Auguste, grand patron romain.
Alors, des petites villes sympas aussi, et même de gros villages comme Vézelay, qu'on va aller voir. Un des plus beaux villages de France.
Ah, c'est un des très très beaux villages de France, oui. On va gravir ce village en pierre jusqu'à la basilique. C'est un bien protégé par l'UNESCO. Il y a pas mal de magie et de mysticisme dans ce village, oui. Et au pied de ce village, Saint-Père-en-Vézelay, on a une brasserie. Hein, donc on fait aussi de la bière, pas que du vin d'ailleurs, en Bourgogne. Voilà la bière de Vézelay qui est bien connue également.
Et ça, c'est le son d'une chimée ou d'une Vézelay à déguster en terrasse, au bistrot des Optimistes, fondé dans le Morvan par Dominique et son mari Marc Alévy. On y voit le verre de bière ou de vin à moitié plein. Avant de s'y attabler, je vous propose de découvrir leur domaine.
Nous sommes dans le domaine de la Cabane Verte, qui est mon village de vacances, enfin de voyageurs, qui est au bord du lac des Sétons, dans le parc naturel régional du Morvan, cœur de la Bourgogne.
Alors ça, c'est ton bébé. C'est quelque chose que tu as aménagé et concrétisé.
Oui. Alors, je suis partie d'un terrain quasi vierge pour construire ce qu'on appelle un parc résidentiel de 42 chalets en bois, 4 saisons, qui sont des chalets propriétaires. Et je gère l'ensemble du domaine.
Alors des chalets, des roulottes aussi, au bord de l'eau, on sort et on a le lac en face de soi.
Oui, c'est ça, c'est le principe de venir se reposer avec le regard qui porte vers l'eau et vers les îles, parce qu'il y a 2 îles sur ce très beau lac.
Des îles du bout du monde.
Ce sont les îles du bout du monde.
Alors l'idée, c'est de se reposer le corps et l'esprit.
Oui, parce que c'est un lieu de nature très très calme, avec les forêts, les lacs, les petits chemins. Et le domaine, son principe, c'est d'être un domaine calme et familial. Donc on fait très attention à faire respecter le silence pour que chacun puisse se reposer quand il est là. Et puis l'esprit aussi, parce que dans le bistrot des Optimistes, on va retrouver des œuvres d'art colorées, on va faire des soirées philo. On accueille pas mal de séminaires d'entreprises ou sur tous les sujets, en tout cas, qui permettent de réfléchir au sens du monde. C'est un grand sujet chez nous.
D'ailleurs, chaque chalet a le nom d'un philosophe ou d'un scientifique. Là, on passe devant Lao Tzu, je vois Einstein, Galilée, et certains aussi des noms d'animaux. Là, je vois le loup ou d'arbres érables.
Oui, c'est ça. C'est notre particularité. Ce ne sont pas des numéros. Tous les chalets ont un nom qui a un sens et qui est décoré, en tout cas avec une touche. Donc quand on est chez Spinoza, eh bien, on a une œuvre de Spinoza et 2-3 livres de Spinoza. Comme ça, quand on occupe ce chalet, on peut profiter de la lecture. Et très étonnamment, les gens choisissent leur chalet également en fonction du nom.
Là, vous avez connu un boom suite au Covid. Les gens ont envie peut-être de redécouvrir des territoires près de chez eux, de consommer moins mais mieux, de partir peut-être moins loin aussi.
C'est parfaitement ça, oui. C'est, je veux dire, pourquoi courir très très loin au bout du monde quand le bout du monde c'est chez soi, hein. Il faut toujours emprunter la rivière qui est à côté de son jardin.
Et en fait, en créant ce domaine, tu réalises un peu ton rêve de petite fille, parce que tu étais chef patro, chef scout, tu as toujours aimé être géo en fait.
Oui, je voulais être chef de village de vacances. Ça, c'était mon truc, toute petite. J'ai écrit d'ailleurs à Vacances et Santé, que certains connaissent bien, à Arlon, pour faire ma formation d'animatrice. Je leur ai écrit, j'avais 12 ans, ils m'ont répondu que j'étais un peu jeune et que j'attendais mes 17 ans. Ce que j'ai fait à 17 ans, j'arrivais pour ma formation d'animatrice, puis très vite formateur d'animateur et très vite chef de centre de vacances. Et puis j'ai choisi mes études dans ce sens-là. Je n'ai pas pu réaliser ce rêve tout de suite en cherchant un emploi. Ce n'était pas le bon moment à ce moment-là. Et puis, je l'ai fait maintenant. Voilà. La boucle est bouclée.
Et cette boucle, ce cercle vertueux, Dominique le raconte dans son livre « Le tourisme demain ». On vous a mis la jaquette et toutes les infos dans l'article en ligne sur lapremière.be. C'est signé Edith Vallée. Pour nous accompagner ce matin dans le Morvan, il y a aussi une chanson d'Antoine Wielemans, « De l'or comme celui qui illumine les arbres en ce beau dimanche d'automne ».
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
De l'or, petit bijou ciselé par Antoine Wielemans de Girls in Hawaii sur son nouvel album Vateto, autre petit village de France. Alors nous sommes ce matin à Mou-en-Morvan, le Morvan qu'on appelle souvent la Bourgogne du pauvre. C'est la France profonde dans toute sa splendeur, toute sa beauté aussi. On sent ici une âme, un mystère et une mentalité très particulière. À la Cabane Verte, le site de vacances créé par Dominique et son mari écrivain, chalet roulant. Lodges et lodges sont dispersés au bord du lac des Sétons. C'est the place to be pour celui qui souhaite voyager autrement. Vous l'avez entendu, hein, chaque habitation porte le nom d'un philosophe ou d'un scientifique. Moi, j'ai dormi dans le chalet Einstein. C'est pas que je me la pète, mais j'aime bien sa petite phrase « L'imagination est plus importante que la connaissance ». Alors, on est toujours en bonne compagnie dans la cabane verte. Moi, dans un instant, je vous présente Akela, le chef du village.
Les Belges du bout du monde. Sur la première.
Et avant de retrouver notre Belge du bout du monde, Dominique Hannet, je tends mon micro au maire du village.
Pascal Ratto, je suis maire de la commune de Mou-en-Morvan depuis mars 2014. Je suis né à Mou-en-Morvan, j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans sur la place du village. Mes parents tenaient un petit bistrot sur la place du village. En dehors d'être maire, qui n'est pas un métier, je suis taxi.
Donc vous avez une double vie?
J'ai une double vie, si on peut dire comme ça, oui. Professionnelle.
Ça, c'est très drôle parce que être chauffeur de taxi, c'est aussi une façon de connaître le quotidien de ses concitoyens.
Alors, ça m'a permis aussi d'être connu forcément par ma future clientèle. Je suis taxi depuis maintenant 3 ans, j'ai envie de dire que 3 ans. Donc ça m'a permis aussi de me lancer dans ce métier. Et bien sûr que quand les personnes montent, bien sûr que le sujet principal, c'est le sujet de comment va notre commune.
Quelle est la course peut-être la plus folle que vous ayez faite, Marc?
La plus folle, là dernièrement, j'ai eu un appel pour transporter une personne à Fribourg en Suisse.
Ah ouais, ouais.
Et aussi, il m'est arrivé de transporter Marc, le mari de Dominique, sur ses conférences dans le nord de la France, avec un plaisir non seulement à le transporter et à l'écouter pendant ses conférences.
Ah oui, pas mal, pas mal, pas mal. Donc ça fait un peu des vacances aussi ce métier. Ah,
j'ai pas l'impression de travailler. C'est quand on vit, et je le souhaite à tout le monde, hein, de pouvoir avoir une vie professionnelle comme la mienne, je vis que de passion. J'ai pas l'impression d'avoir de travail, bien sûr que je le fais parce qu'il faut, côté taxi, gagner sa vie, mais j'ai l'impression d'être en vacances depuis maintenant mars 2014.
Eh bien, bonnes vacances, monsieur le maire.
Eh bien, merci à vous.
Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Cet enthousiasme contagieux, je le ressens partout dans le village de Mouhans-Morvan, que ce soit chez Pascal, maire et chauffeur de taxi, le genre de cumul qui n'existe que dans le Morvan, ou chez Dominique et son voisin Jérôme, qui gère une base de loisirs sur le bac des Sétons. Mise à l'eau en 1858, c'est le plus ancien et un des plus grands lacs du Morvan. Son robuste barrage en pierre retient 360 hectares de surface d'eau, un super terrain de jeu pour les activités nautiques et pour les joggeurs. Combien de kilomètres fait le tour du lac, Jérôme ?
17 kilomètres et il faut à peu près 2h30 pour le faire à pied. Puis à vélo, il faut entre 1h15 et 1h30 en fonction du type de vélo qu'on utilise.
Alors, votre spécialité, à vous, Jérôme, ce sont plutôt les sports aquatiques sur ce lac des Sétons ?
Alors oui, on a une dominante sur les sports aquatiques. On propose également des activités terrestres, telles que le VTT, le VTT assistance électrique, puis aussi d'autres prestations, notamment à destination de groupes d'enfants, qui peuvent être une initiation à l'environnement, qui peuvent être découvrir ce qu'était le lac des Sétons avant, une présentation du barrage du lac aussi. Voilà, on a plusieurs cordes à nos arcs sur les activités qu'on propose.
Alors on est sur un petit ponton flottant,
oui.
Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
Alors on va vous proposer d'être sur un ponton beaucoup plus petit, flottant certes, avec un moteur électrique, puisqu'on vous propose une activité qui s'appelle le e-foil, qui est une activité très récente. Hein. On a aujourd'hui en France et dans le monde un emballement sur la pratique du foil, qui est en fait un mât avec une aile. Là, la particularité, c'est que c'est embarqué avec un moteur électrique. Et donc, vous allez pouvoir connaître les sensations du vol au-dessus de l'eau.
Dominique, tu as déjà testé ?
Je n'ai jamais testé, mais je recommande à beaucoup de vacanciers d'y aller. Alors maintenant, je vais devoir m'y coller.
Il faut être grand sportif ?
Pas du tout.
Donc, j'ai mes chances ?
Oui. oui, plutôt de bonnes, un bon pourcentage de chance.
Bon, ben on va s'acheter à l'eau. Elle fait combien de degrés ?
Elle fait 17-18. Elle est quand même relativement fraîche. Hein. On est dans le Morvan. C'est une région, somme toute, assez fraîche, assez humide. Mais on vous a équipé d'une combinaison intégrale avec un gilet. Le premier bouillon va être un petit peu saisissant. Puis après, avec les sensations que vous allez avoir, je pense que vous allez plus trop vous en soucier.
Bon, mais je mets déjà un orteil dedans pour voir. Ah oui, quand même.
Même pas froid. Cet après-midi à 14h10 sur la Une, vous me verrez tenter de tenir debout sur cette planche. Je peux déjà vous garantir que je vais alimenter le bêtisier de fin d'année. Allez, maintenant que nous sommes bien rincés, nous sommes prêts à nous élancer vers les sommets du Morvan, le plus petit massif montagneux de France, direction Bibracte. C'est une ancienne ville gauloise et gallo-romaine de 200 hectares enfouie sous la forêt. Classée aujourd'hui monument historique et site archéologique d'intérêt international. Et si nous sommes ici, Dominique, ce n'est pas par hasard.
Nous sommes ici parce que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Adrien, c'est pour cela que je voulais que vous rencontriez Pascal, notre archéologue en chef de Bibracte, qui est en Gaulois du Nord.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour à tous. Oui, le morin de service.
Ça veut dire que vous venez quoi, du Pas-de-Calais ?
Du Pas-de-Calais, voilà, oui. Donc j'ai migré, on va dire, il y a plus d'une vingtaine d'années pour venir participer aux fouilles du Mont Beuvray sur la ville de Bibracte, voilà, pour explorer ce site qui est sous la forêt aujourd'hui, hein, qui est complètement, on va dire, digéré par la végétation, mais qui est bien là, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, cette ville antique est protégée complètement.
Si on se met sur la pointe des pieds et qu'on a une vue complètement dégagée, on pourrait apercevoir le Mont Blanc ?
Oui, alors là, aujourd'hui, on voit les monts du Lyonnais, ce qui est vraiment extraordinaire. Ils sont éclairés par le soleil et on verrait presque le Mont Blanc, là, légèrement sur ma gauche, là, dans le prolongement de la vallée du Mévrin. Normalement, on voit toute la chaîne du Mont Blanc, donc à peu près à 350 km. Donc, il faut imaginer qu'on a une vue ici à 360 degrés sur pratiquement 300 km.
On sent que c'est battu par les vents, on l'entend, la forêt avec ses couleurs fauves, c'est très sauvage, c'est magnifique.
Ah, c'est superbe. C'est pour cela que je recommande des visites et je recommande de venir y habiter.
Oui, dans le Morvan, je le rappelle, on est ici dans le parc régional naturel du Morvan, où les Belges
font des affaires, construisent des empires, comme Dominique, mais aussi entreprennent des fouilles. Vous travaillez, Pascal Paris, avec des archéologues de l'ULB.
Oui, l'Université libre de Bruxelles est venue ici dès la reprise des fouilles, pratiquement, donc 1987, et ils ont fouillé en continu jusqu'en 1997. Bon, après, il y a eu une petite interruption. Bah, on a toujours une activité avec l'ULB depuis maintenant, 1987, donc vous voyez, c'est une grande histoire d'amour avec la Belgique.
Et une autre histoire d'amour qui unit la Belgique et le Morvan, c'est celle que vous allez nous raconter, Anne Pollard.
Oui, ce couple de Belges, Fabienne et Jean-Marc Laloux, qui ont décidé il y a un peu plus de 5 ans de planter leur chevalet dans la nature du Morvan. Ils sont en fait artistes peintres et vous allez voir, le Morvan vraiment les inspire au quotidien.
Ici, on est quand même à l'ancienne, c'est-à-dire que je vis ici comme mes grands-parents vivaient. Donc pour moi, c'est un rêve.
Le Morvan, c'est la nature puissance 10. Tous les matins, le paysage est changeant, soit parce que le soleil n'est pas à la même place, soit parce qu'il y a de la brume. Donc parfois, on a l'impression qu'il y a les collines, parfois on ne les voit pas. Et donc, on peut regarder à gauche, à droite, devant. C'est une source d'inspiration infinie.
Quand vous êtes entouré de fils électriques et que vous trouvez que c'est pas beau à dessiner, vous ne les dessinez pas. Quand vous êtes entouré d'épicéas et de chênes et de hêtres multicentenaires, vous avez envie de les dessiner, c'est tout. Nous, on fait notre pain, on fait notre farine avec nos châtaignes. Quand on voit une châtaigne qui pousse, moi, je n'avais jamais vu la naissance, la vie et la mort d'une châtaigne. Donc, oui, ça inspire forcément.
Avec le premier confinement, il y a des idées qui m'ont traversé l'esprit. Il m'a filé le virus, pas celui du Covid, mais le virus de l'art. Et depuis, on travaille en duo. On a commencé à travailler en duo comme ça. Bon, ben notre quotidien, évidemment, il est artistique parce que je vais dire, l'art, il fait vraiment partie de notre vie. Même moi, déjà avant d'y toucher moi-même, j'aimais beaucoup ce milieu-là. Et puis quand on vit avec un artiste, on est immergé dedans. Et même quand on n'est pas dans notre atelier, ben on parle d'art, on pense art, parce que bon, quand on crée une œuvre, ben c'est pas juste au moment où le crayon ou le pinceau est sur la toile, hein, c'est tout le temps. Mais notre quotidien, dans le Morvan, la façon de vivre est différente. On habite une vieille longère, une vieille ferme. Avec des poules, avec un potager, avec un verger d'espèces anciennes, un verger de sauvegarde, comme on appelle ça. Du coup, ça a radicalement changé aussi, je vais dire, la vie au quotidien. Les magasins sont loin, donc on réfléchit deux fois avant de prendre sa voiture pour y aller. Et on en vient à faire son pain, ses confitures, à avoir son élevage de poules, ses œufs, ses légumes et à vivre un peu en autonomie, au calme, et ça nous réussit très bien.
Fabienne et Jean-Marc Laloux, un duo d'artistes installés dans le Morvan.
On a mis leur peinture en ligne sur lapremière.be et sur les réseaux sociaux des Belges du bout du monde. Un grand merci à Anne Pollard. Après la pause, je vous emmène visiter la basilique de Vézelay et nous prendrons un bain de forêt dans les bois du Morvan.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Excellent dimanche à vous sur la première et bienvenue dans le Morvan où nous allons grimper maintenant sur la colline éternelle de Vézelay, un des plus beaux villages de France. Sa basilique, classée patrimoine mondial de l'humanité, a vu passer tant de pèlerins au fil des siècles. Sa lumière, son architecture si particulière, façonnée par l'ingéniosité des hommes, distille l'invisible présence divine. On y vient du monde entier et de toute confession pour y trouver la sérénité. Superbe ce chant de Graziella,
Girard, cantatrice d'origine japonaise et argentine, accompagnée par John Milchberg au charango, enregistrée dans l'acoustique si particulière de la basilique de Vézelay. Dominique, notre Belge du bout du monde, est comme moi sous le charme œcuménique de l'endroit.
La Bourgogne en général, c'est vraiment une terre de spiritualité au pluriel. Je n'ai pas dit de religion, mais de spiritualité. Beaucoup de gens viennent ici avec une démarche de recherche, de quête de sens.
Un truc, un bon plan peut-être, Christopher, si on vient, c'est d'aller plutôt au moment des solstices, parce que dans la basilique, ici, il se passe quelque chose de spécial, soit vers le 20 juin, soit vers le 20 décembre.
Tout à fait. Alors, je vais préciser que je déconseille très vivement la venue le 21 juin. C'est catastrophique.
Trop de monde.
Trop de monde. Donc, en fait, on ne voit pas ce qui fait la renommée aussi au niveau des Jeux de Lumière à Vézelay, qui est ce chemin de lumière qui est au moment des solstices d'été. Voilà, donc ce chemin de lumière, il est très bon à voir tout le mois de juin. Voilà, mais jamais le 21. Voilà, petit conseil.
Oui, parce qu'il faut rappeler que Vézelay, c'est 78 habitants, mais 1 million de visiteurs par an. C'est reconnu au patrimoine mondial de l'humanité, cette basilique. Donc il y a beaucoup de monde. Donc il faut aller un petit peu avant ou un petit peu après. Ouais. La même chose en décembre.
Et en décembre, c'est la même chose. La lumière, les solstices d'hiver, ce sont les chapiteaux, les sculptures qui sont magnifiques ici, qui sont éclairées en direct par la lumière rasante du soleil d'hiver.
Alors, qu'est-ce que cette basilique a de particulier pour chacun d'entre vous, pour vous, Christopher ?
Honnêtement, c'est le lieu, pour moi, de nourriture quotidienne. Ça fait 12 ans que je suis ici. Et je me rends compte que c'est un travail permanent dans ce sens de, espérons-le, la transformation dans le bon sens.
Et toi, Dominique ?
Eh bien, écoute, c'est un lieu d'équilibre, c'est un lieu de convergence entre beaucoup de choses, et ceux qui le visiteront découvriront que c'est un lieu aussi de réconciliation. Et c'est une histoire longue, où beaucoup de choses se sont passées, et on sent une énergie, une force difficilement descriptible, mais que l'on ressent quand on est sur ces terres de Vézelay.
Réconciliation même dans l'architecture.
Oui, tout à fait, dans ce sens où il y a deux architectures qui se côtoient, le roman et le gothique, oui, qui sont exceptionnels ici. Aussi, pour aller dans le sens de ce que disait Dominique, c'est un lieu d'apaisement. Le retournement, la transformation, ça a de sens que dans le sens de grandir en paix intérieure, en amour, on espère. Voilà. Et c'est vrai que nous le voyons avec beaucoup de gens qui viennent. Et cette énergie est très positive ici. Voilà.
Alors, tout autour, dans la ville, la coquille Saint-Jacques, symbole du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle.
C'est une des quatre portes au Moyen-Âge, avec Paris, la tour Saint-Jacques au Châtelet, le puits et la voie tolosane. Et ici, si les gens venaient ici, parce que bien sûr, ils espéraient exactement la même chose que Marie-Madeleine dans le récit biblique, c'est-à-dire c'est une rencontre qui va transformer leur vie.
En venant à Vézelay, vous allez monter une rue magnifique, une rue centrale. Au milieu de cette rue, vous trouverez la maison du visiteur. Et la maison du visiteur, c'est une porte qu'il faut ouvrir avant d'aller à la basilique pour comprendre tout ce qu'on peut trouver de lumière, de sens, de symbole. Sans passer par là, on ne comprend pas la même chose.
Quelles que soient vos convictions religieuses, vous serez accueilli par Christopher. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup en rentrant dans votre maison, surtout pour quelqu'un qui fait de la radio, c'est l'oreille qui donne des ailes. Il faut écouter.
Oui. Ça, c'est sur une sculpture qui s'appelle le Grand Tympan, qui est à l'entrée dans le lieu d'accueil des pèlerins, le narthex, ça s'appelle. Et tout à droite, il y a cette famille à grandes oreilles. Officiellement, c'est les panotti, comme les otites, les grandes oreilles. C'est vraiment, oui, cette invitation à l'écoute, mais l'écoute de la musique qui est à l'intérieur de chacun. Notre identité spécifique, voilà.
Christopher Kelly, scénographe irlandais de la maison des visiteurs à Vézelay. Alors, en s'installant là dans le Morvan, terre de spiritualité, vous l'avez entendu, Dominique a également découvert de nouvelles pratiques en harmonie avec la nature, comme les bains de forêt qu'elle prend en compagnie de loups sylvothérapeutes.
Adrien, je t'emmène en forêt pour découvrir une activité que nous proposons à nos vacanciers avec Lou, que tu vas rencontrer.
Bonjour Lou.
Bonjour.
Je vous dérange, vous faites une... C'est quoi, c'est du yoga ?
Du qigong.
Ah, le qigong. C'est quoi le qigong ?
Alors, c'est une sorte de gymnastique de santé traditionnelle chinoise qui fait partie de la médecine chinoise.
Et c'est en faisant du qigong que vous vous êtes rencontrés ?
Oui, j'étais l'élève, je suis toujours l'élève et elle est le maître.
Alors, ça se pratique ici au pied des arbres qui sont pleins de couleurs magnifiques. C'est quoi ? C'est un exercice de reconnexion à soi-même ?
À soi-même, à la nature, à l'environnement. C'est aussi une façon de s'apaiser, de se réharmoniser un petit peu dans les fonctions physiologiques déjà, et puis nerveuses, relationnelles. Enfin, c'est bénéfique pour pas mal de choses. L'idée, c'est d'acquérir ou de retrouver une certaine stabilité. Donc on va déjà prendre conscience qu'on a les deux pieds bien posés sur la terre, ce qui paraît élémentaire, c'est le cas de le dire, mais important. Donc dans cette pratique, on prend conscience du poids du corps qui pèse bien sur la terre. On prend le temps de détendre les épaules, le bassin, les mâchoires, et de simplement poser son attention sur la respiration naturelle. Puis on va laisser faire un mouvement très doux, très lent, avec l'inspire et un retour avec l'expire. On relâche le maximum, c'est vraiment une pratique de feignant parce qu'il faut un minimum d'effort, un minimum de tension musculaire et beaucoup de douceur.
Ah, moi, ça me convient très bien. Alors, on le fait aussi avec l'arbre.
Oui, avec l'arbre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées, qui nous rassemblent, l'arbre et nous. La circulation de la sève, l'enracinement. Quand on parle d'enracinement, c'est vraiment lié à l'arbre. Et puis, c'est une vieille histoire entre nous, depuis la nuit des temps. Hein, l'arbre a toujours été à côté de nous. Donc, on a cette énergie de l'arbre qui nous aide aussi à retrouver notre équilibre. On peut en profiter ici. C'est un être vivant qui ne se déplace pas, c'est particulier. Donc on peut partir et demain il sera toujours au même endroit. Donc c'est aussi une notion de rendez-vous, je trouve, avec les arbres et avec la nature et avec nous-mêmes, bien sûr.
J'ai l'impression aussi qu'ici, on entend le murmure de la forêt qui pousse.
Oui, probablement. Il faut l'oreille un peu fine et un peu exercée. Mais oui, tout à fait. Déjà, on entend le bruissement des feuilles. Et puis... Puis le bruit du vent, le vent, on l'entend parce qu'il rencontre le feuillage, en fait. Hein, et on peut, je pense, entendre les arbres pousser, oui.
Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, sur le plan personnel, la pratique du qigong et ses bains de forêt, Dominique ?
Eh bien, Adrien, quand tu es une entrepreneuse, tu sais, le niveau de stress a une tendance à bien monter souvent. Et donc, le qigong me permet de vraiment me reposer, de me poser et de descendre l'énergie un peu trop vive et active. Et de rester calme, en fait.
Et alors, ce vent là qui arrive, on a envie de l'embrasser sur la bouche. Là, ça fait un bien fou. Hein.
Ah, il faut embrasser le vent, bien sûr. Les arbres aussi. Et plonger dans l'eau froide.
Un rapport plus fort aussi, depuis que tu es ici, avec la nature, parce que tu viens d'une région déjà très nature, l'Ardenne. Mais ici, c'est pareil, c'est aussi des lacs, des forêts.
Alors, c'est aussi des lacs, des forêts. C'est de plus grandes forêts, de plus grands lacs et plus d'altitude. Ce sont les Ardennes au carré. Hein. Cette expérience de bain de forêt qu'on fait découvrir à nos vacanciers, c'est une chose, mais l'eau, elle le prolonge par d'autres choses.
Comme la cuisine, par exemple.
Oui, la cuisine, oui.
C'est quoi ? C'est une cuisine de cueillette sauvage ?
Oui, quand c'est la saison, on peut vraiment trouver un tas de choses délicieuses à se mettre sous la dent. Oui, tout à fait. Oui. Donc des cuisines sauvages, des fleurs sauvages, des plantes sauvages, qui ont des vertus médicinales aussi, parfois. Donc, qui font du bien au palais et à la santé. Donc, qui, en plus, amène à regarder par terre, à regarder autour de soi et se rendre compte de ce qu'on a sous la main. C'est aussi ça.
Alors, l'automne, ici, ce sont les champignons ?
Oui, les champignons, les girolles, les cèpes, les coulemelles. Oui, il y a plein de champignons, oui.
Ah, je vois que vous vous léchez les babines. Alors, la cuisine sauvage de Lou est à découvrir aussi en photo sur lapremière.be. Et je peux vous dire que sa cuisine végétarienne est un vrai délice. Dans un instant, rencontre avec Marc Alévy, le mari de Dominique Anet, notre Belge du bout du monde. Il est prospectiviste, scientifique et philosophe, s'il vous plaît. Juste après cette chanson de Francis Cabrel sur La Première.
Les Belges du bout du monde sur La Première.
Voilà que du sol où nous sommes, nous passons nos vies de mortels à chercher ces portes qui donnent vers le ciel. C'était La robe et l'échelle, évidemment, magnifique chanson de Francis Cabrel à fredonner au grand air dans les forêts du Morvan. Si l'aventure vous tente, rendez-vous sur notre plateforme belge du bout du monde expérience.be avec, vous le verrez en ligne, des séjours grandeur nature ici dans ce qu'on appelle un peu le Canada français. Le dicton local dit que du Morvan, il ne vient ni bon vent, ni bonnes gens. Nous allons le contredire tout de suite avec Marc Alévy.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Pour terminer cette émission, les Belges du bout du monde dans le Morvan, j'ai l'impression d'être dans le plus beau studio du monde. Où sommes-nous, Marc Alévy ?
Et nous sommes devant le lac des Sept-Onges, qui est un des plus beaux lacs de France, avec quelques 18 ou 19 hectares d'eau et autour les jolies collines du Morvan qui sont douces, qui sont bien arrondies.
Et à la faveur de l'automne, on s'est assis sur un petit rocher avec presque les pieds dans l'eau et devant nous ce spectacle jubilatoire des couleurs de la saison. C'est vraiment magnifique. Marc, vous êtes physicien, vous avez travaillé avec Prigogine, prix Nobel dans les années 70. Vous avez écrit 120 livres, vous les avez tous lus ?
Non, mais je les ai écrits. Mais je ne m'en souviens pas de tous. Oui.
Vous êtes tisserand de la compréhension du devenir. Ça veut dire que vous êtes prospectiviste, c'est ça ?
Oui, le fil rouge de tout mon travail, à la fois scientifique et pratique, c'est d'essayer de comprendre quel est le moteur de l'histoire humaine. Qu'est-ce qui fait que les choses évoluent et comment elles évoluent ?
Avec des changements tous les 5 siècles, vous écrivez, et là on est à une charnière maintenant.
Partout dans le monde, donc les grandes civilisations sont toutes des successions de paradigmes, pardon du mot, mais enfin c'est un paradigme, c'est en fait ce qui fait qu'une société se construit et fonctionne d'une certaine manière à un certain moment, et qu'on comprend très vite que le paradigme du Moyen-Âge n'est pas le paradigme moderne, et pas le paradigme de la Grèce antique de Socrate, hein, donc ça fonctionnait, c'est pas les mêmes règles du jeu. Eh bien, on se rend compte que la durée de vie d'un paradigme est à peu près constante, elle est de 550 ans en moyenne. Alors, c'est pas de l'horlogerie suisse, bien entendu, hein, mais c'est intéressant de voir que nous sommes là maintenant, en pleine rupture paradigmatique, donc on est en train de quitter la modernité, on est en train d'inventer un nouveau paradigme, et entre deux paradigmes, il y a une zone que nous appelons dans notre jargon une zone chaotique, et je pense qu'il ne faut pas parler beaucoup pour faire comprendre à vos auditeurs qu'on est vraiment dans une zone chaotique avec pas mal de bordel un peu partout. Je les rassure, c'est normal.
Et après ça se calme alors. Et
après ça se calme, donc on devrait sortir de la zone chaotique dans les 10-15 ans qui viennent.
Ah bon, c'est bien. Vous avez été manager de crise, on ouais. Sent là, vous rassurer, c'est bon. Vous avez travaillé aux États-Unis, ouais. Mais aujourd'hui vous prenez votre temps dans le Morvan. Prendre son temps, vous écrivez, pour ne pas le perdre.
Oui, moi j'ai 70 ans, enfin 70 ans.
Parce que vous êtes belge, hein ?
En partie belge, oui. Et je considère que, à 70 ans, on commence à se dire qu'on a un regard sur la vie qui peut s'apaiser un peu. J'ai 6 enfants, ils sont tous casés, ils ont tous leur métier, ils ont tous leur famille, ils ont leurs petits-enfants, j'en ai 7. Et donc voilà, le regard que j'ai sur le temps, c'est effectivement de prendre son temps. Mais le prendre, dans le sens, je le capture, pour surtout ne pas le perdre, c'est-à-dire le laisser filer. C'est beau la vie, non, Adrien ?
Ça, c'est mon avis aussi.
Alors, cette vie, elle est magnifique, il faut la vivre pleinement, et jamais reporter à demain ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc il y a là quelque chose que je trouve fondamental et que j'essaye de faire avec Dominique. Et voilà, c'est cette vie intense qui, je pense, n'est pas loin de celle que tu vis, toi, non ?
Je crois qu'on doit être sur la même longueur d'onde. En tout cas, ce matin, sur la première, ça c'est sûr. Alors, on va passer au tube parce qu'on se tutoie, c'est vrai. Tu es aussi créateur du Bistrot des Optimistes.
Ah oui. Alors, le Bistrot des Optimistes, oui, c'est une idée qui est venue parce que Dominique avait envie d'avoir un bistrot sur son domaine et que j'attache une importance colossale à la notion d'amitié. et avec un de mes grands amis est Luc Simonet, qui était le fondateur de la Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique, ça s'invente pas quand même. Et quand on a voulu faire ce bistrot, j'ai demandé à Luc s'il m'autorisait à l'appeler le premier bistrot des optimistes du monde. Alors, il m'a dit, c'est génial ton truc, vas-y, fonce. Et c'est comme ça qu'on a créé le premier bistrot des optimistes du monde.
Et on est sur la terrasse de ce bistrot, ou presque, pour cette émission, Les Belges du bout du monde. Bah, tu dois beaucoup à la Belgique, parce que tu as été élevé par un grand-père belge.
Oui, un grand-père adoptif, oui. J'ai une vie un peu compliquée, et effectivement, toute mon enfance, je l'ai passée en Flandre. Ma mère étant francophone, j'étais dans un internat français, mais sous la tutelle d'un homme extraordinaire qui est un paysan flamand qui s'appelait Hector. D'ailleurs, ma société s'appelle la société Hector, c'est pas un hasard. Et ce qui m'a permis d'avoir d'abord les pieds dans la terre, ça c'est important pour moi, dans la nature, dans la vie, dans la gadoue. Et d'autre part, c'est d'avoir cette bipolarité francophone et néerlandophone. Et quand je dis néerlandophone, néerlandais, c'est le patois van Bartendekup.
Hein. Oui, parce que Hector, il était de Comines.
Il était pas loin de là, oui. Enfin, lui, il était d'Aspelard et sa femme était de Poperinghe. Et donc, effectivement, ils habitaient dans ce qui est devenu Comines maintenant, oui, mais c'était flamand, c'était des flamands.
Et il y a le portrait d'Hector dans le kit bistrot des optimistes.
Ah oui, oui, parce que c'est mon homme de référence, vu que mon papa est mort 2 mois avant ma naissance. Donc pour moi, c'est l'homme de référence dans ma vie à moi.
Nous faisons cette interview le long du lac des Sétons. Et tiens, un dicton qui dit que la pluie ne mouille pas le poisson. Qu'est-ce que ça veut dire, cet adage?
Bah, c'est un truc que j'ai un jour sorti au dernier de mes fils, qui a 21 ans aujourd'hui, mais je pense qu'il devait avoir 5 ou 6 ans. Et on était dehors tous les deux et on avait une petite mare où il y avait des poissons et il pleuvait. Et Noé était... Noé, tu vois, c'est un nom prédestiné quand on parle d'eau. Hein, il y a Noé qui regardait l'eau et qui dit « c'est pas agréable d'être sous la pluie, etc. » Et c'est à ce moment-là que je lui dis, mais spontanément, je dis « mais tu sais, la pluie ne mouille pas les poissons. » Mais et je trouve que cette petite phrase ridicule a beaucoup de sens. C'est que quand on est dans un milieu... On n'a pas la notion d'intempérie. C'est pas... La notion d'intempérie vient du fait qu'on n'est pas dans le bon milieu. Et donc, quand on parle de la crise, les crises sociales, économiques, etc., que nous vivons et que nous allons vivre, parce que là, je tiens à te le dire, les crises financières, ça va venir. Une fois qu'on est dans le milieu, c'est pas la même chose que de subir de l'extérieur les intempéries. Et donc, la pluie ne mouille pas les poissons, c'est une phrase que j'aime bien.
Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas toujours aller à contre-courant. Parfois, il faut aller dans le sens du courant.
Ah, oui.
Il y a des tumultes, mais il faut en profiter.
Oui, ça c'est taoïste. Hein. Tu sais que je m'intéresse beaucoup au taoïsme et on est bien dans cette idée que nager contre-courant, c'est la meilleure manière de s'épuiser et d'aller nulle part. Par contre, se laisser porter par le courant, mais profiter du courant pour choisir le cap et la direction qu'on veut, c'est aller où on veut, donc c'est la liberté. Donc se soumettre au courant est une manière d'affirmer sa liberté.
La liberté, c'est l'arbre aussi. Tu as 2 secrets, c'est Donna, Dominique,
oui.
La femme de ta vie, et puis l'arbre.
Oui, alors l'arbre, pour moi, c'est un... C'est un être vivant que je trouve exceptionnel, l'arbre. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, Adrien, mais toi et moi, nous sommes des arbres. On a des racines qui plongent très très loin dans notre généalogie. On a besoin de lumière. Cette lumière, appelle-la comme tu veux, c'est l'amour, c'est la vérité, c'est Dieu pour certains, enfin peu importe, on a besoin de cette lumière. On n'est pas du tout linéaire, on a plein de branches. Ta vie, ma vie sont des vies riches parce qu'elles ont des tas de branches et des tas de chemins qui ont été faits, des tas de bourgeons qu'on a laissé pousser, des fleurs, bien sûr, qui sont devenues des fruits. Et ces fruits-là, ben, j'espère que mes enfants les mangent avec bonheur.
Quelle belle parole de sage, merci beaucoup. La semaine prochaine, nous serons en Inde, chez Madeleine de Blic, qui a obtenu la Légion d'honneur, s'il vous plaît, pour son engagement auprès des plus démunis de Pondichéry. Ça aussi, ce sera une belle histoire belge du bout du monde, comme celle que nous avons vécue ensemble aujourd'hui dans le Morvan, avec Marc Alévy et Dominique Anné. Je vous remercie tous les deux pour votre accueil. C'était... proche et lointain à la fois, c'était magnifique. Merci à vous deux.
Merci Adrien.
Et bonne continuation.
Et merci à toi. Et vraiment, on a adoré vous avoir chez nous. Et que tous les Belges viennent nous dire bonjour. Ils seront très bien accueillis.
Ah, c'est pas le bout du monde, mais ça vaut vraiment la peine. Le Morvan, à quoi? 500 km de Bruxelles?
Oui, un saut de puce.
Oui, vraiment. Oui. Et si ça vous a fait rêver, cette émission, vous allez pouvoir la voir aussi à la télé, après-midi à 14h10. Parce que là, le décor, ça vaut la peine. Hein.
Ah, il faut le voir en image, absolument.
Dans un instant sur la première, après le journal de 10h, vous avez rendez-vous avec Pasticho. Cette émission a été mise en onde par Paul Michel. Excellent dimanche à toutes et à tous et rendez-vous à 14h10 sur la Une en télé. Bye bye, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Podcast.